Amis de Radio Silence, bonjour et bon dimanche. D'après le 1er mai, je crois qu'on est le 4, hein, je ne sais plus. Et bientôt, ça va être l'ouverture du conclave pour un nouveau pape. Hein, on va dire un nouveau pape va nous être donné. Bon, en attendant, c'est vrai que parler de religion, c'est toujours un gros risque hein, pour celui qui n'est pas un religieux pur jus. Et puis, de toute façon, nous ne sommes pas dans le conclave hein, pour savoir déjà comment ça se passe, ni ce qui se trame là-bas. Mais on va essayer de parler de cela, ou plutôt se mettre dans une perspective différente, c'est-à-dire de voir si l'actualité, enfin l'actualité, si les préoccupations du moment peuvent influencer la sélection, enfin la désignation du pape ou l'élection du pape au sein du conclave. Bon, c'est vrai que il y a une grosse, comment on va dire, une OPA, une sorte de d'assaut comme ça par certains dirigeants. On a soupçonné le président français de vouloir influencer le choix du prochain pape en fonction justement de ses préoccupations mondialistes qui vont de pair avec tout ce qui est l'acceptation des minorités et de peut-être d'autres choses qui devraient garantir la poursuite du comment ils appellent ce truc-là, le Forum mondial, c'est plus trop. Et bon, ça ce sont c'est pas des supputations hein, puisque les Italiens se sont plaints de cette forme d'ingérence du président français, enfin une tentative hein, parce que c'est vrai il aurait parce qu'on se fie aux informations des réseaux sociaux, il aurait invité des cardinaux français pour essayer, enfin qui seraient présents au sein du conclave pour essayer de leur dire, enfin pour forcer un peu, pour pas forcer la main, mais comment on dit ça, faire une sorte on propose quoi, sans proposer, enfin tout en faisant comme si on n'avait rien dit quoi. Alors on vous invite à partager un bon repas et puis on essaye de il y a un mot pour dire ces choses-là, mais j'oublie. Et on vous propose une ou deux orientations qui pourraient être très bien. Et à vous, le prêtre, le religieux, de penser ce que vous penserez et de tirer les conclusions que vous pourrez en tirer, mais sachant que on joue un peu comme ça sur une forme d'influence. On appelle ça la persuasion clandestine. Bon. Alors, pour le prêtre et pour tous ceux qui seront en conclave, va se jouer quelque chose. C'est que de l'extérieur, nous, on est quand même dans une forme de cycle laïque et que l'Église est dans une forme d'intemporalité. Voyez, l'Église, et puis l'Église, surtout quand on parle d'intemporalité de l'Église, c'est que l'Église a une doctrine. Ah, c'est ça, la doctrine. C'est un mot, ça a un sens, c'est un mot fort. C'est une doctrine, donc elle est indépassable. Alors, on essaye de l'aménager par endroit et en faisant très attention que ces aménagements n'influencent pas, enfin, ne changent pas le sens de la doctrine. C'est pas toujours évident. Alors, il y a ceux qui sont très conservateurs, hein, qui disent qu'il faut toucher à rien. Laisser l'Église telle qu'elle est depuis le départ, et puis on sait que depuis, il y a eu quand même, chaque pape a essayé d'adoucir un peu les angles pour se rapprocher un peu plus de la condition humaine, autant t'est, et avec parfois plus ou moins de bonheur. Bon, je ne suis pas spécialiste, je dis bien de la religion pour dire ce que chaque pape a apporté. Ce n'est pas non plus le but de cette émission. Le but de cette émission, c'est de. Enfin, le but de ce flash, je n'ai même pas dit que vous écoutez Flash sur le monde d'Élise Mbock, pour Radio Silence. Le but, c'est de voir et d'aider à comprendre les rapports entre l'Église et ses fidèles d'abord, et puis les rapports entre l'Église et tout ce qui se passe dans le monde, parce que l'Église catholique en particulier se veut universelle. Et si elle se veut universelle et humaniste, ce qu'elle fait impacte, enfin, on suppose, et c'est vrai, sa parole a beaucoup d'impact sur le déroulement des sociétés, sachant que, il y a eu une séparation de l'Église et de l'État. Mais ça continue à faire problème parce que quand on prend, par exemple, des catégories comme ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est acceptable, ce qui est de la loi, ce qui est de la loi. Déjà, le mot loi, il y a la loi qu'on a là, et puis la loi divine, vous voyez, c'est pas très, très différent. Ce sont des choses sont des concepts qui sont très rapprochés et qui font que, à la fois, on va dire c'est l'Église, mais on voit très bien que le droit procède directement un peu des dogmes et des mythes de la religion. Les 10 commandements, par exemple, c'est un code civil à lui tout seul. Et donc, on est là dans cette position assez. C'est pas le grand écart, mais c'est toujours. Il y a une friction permanente entre l'Église et ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on aurait pu penser que l'Église, c'est le temps suspendu, vous voyez, qu'on emprunte comme ça, qu'on retire, qu'on soustrait au temps de la vie tous les dimanches pour aller, enfin tous les dimanches, je sais que les catholiques, c'est pas forcément que les dimanches, pour aller soit se confesser, soit écouter une homélie, soit aller, et on partage toujours, bien sûr, le repas. Mais en fait, au fond, c'est pas ça. C'est l'Église continue à être un aiguillon, oui, un aiguillon, qu'on l'accepte ou pas. Et c'est d'ailleurs pour cela que Macron s'en mêle, pour essayer de faire passer la pilule, parce que le pape qui est décédé avait dit notamment une chose sur la question de l'homosexualité en empruntant un verset qui disait: Qui suis-je pour juger l'autre? Bon, c'était un peu. On s'y attendait pas parce qu'on se disait que la parole du pape est au-dessus de toutes les paroles, mais là, c'est pas passé parce que justement, il y a une doctrine qui fixe le cap et les règles et les normes sociales qui font que ben, il y a eu une forme de grogne de partout, y compris au sein de l'Église même. Alors le pape a essayé de dire qu'il fallait distinguer entre. C'est un prêtre ici d'ailleurs aussi, curieusement au Cameroun, qui rappelle que le pape voulait dire qu'il fallait distinguer entre le péché et le pécheur, et que l'Église avait pour guide de conduite de sauver le pécheur, même s'il ne peut rien faire contre le péché. Donc c'est en ce sens-là, nous a dit le prêtre Ephraim, qui s'appelle, que il fallait comprendre cette chose-là. Donc c'est pour cela que le pape disait qu'on pouvait bien recevoir les homosexuels à l'église. Mais maintenant, bénir le mariage, ça voulait dire qu'on cautionnait le péché. Donc tout ça aussi, il y avait revêtait une forme d'ambiguïté que, bon, lui, il a rejeté, il a dit non, non. Le pape disait de sauver les âmes. Alors, sauver les âmes, justement, c'est ça le nœud du problème. Parce que l'Église, elle a dans ses préceptes, la question de l'accueil de l'étranger, il faut accueillir l'étranger, la question de sauver le pécheur, bien sûr, la question de la protection de la veuve et de l'enfant. La question du crime, les 10 commandements, tu ne tueras point. Bon, il y a comme ça des thèmes et des sujets qui ont parfois fâché l'Église avec le reste de la société, puisque quand on dit accueillir l'étranger, commençons par ce qui fâche le plus, accueillir l'étranger. Monsieur Vance, le vice-président américain, lui, s'y opposait fermement au pape François en disant que c'était pas possible. Et le pape François disait en gros, probablement qu'il faudrait accueillir tous les étrangers, pardon, j'allais dire du monde ou de la terre. Et donc l'immigration ne devait plus être pénalisée, elle devait être acceptée, quelle que soit son ampleur. Et évidemment, c'est compliqué d'accepter ça parce que là aussi, on est entre le séculaire et puis l'intemporel, hein, comme on a dit, l'éternité. C'est vrai que l'idéal, oui, la Bible dit d'accueillir l'étranger, mais justement, il y a dans ce débat-là, le débat entre ce qui est faisable et ce qui est possible. Alors, l'État va dire, les gouvernements vont dire que nous avons des responsabilités vis-à-vis des frontières et nous pouvons que nous sommes dans la faisabilité des choses, quotas peut-être d'immigrés, conditions d'entrée, etc., contrôle de l'immigration, ça, c'est ce qui est faisable, le pragmatique. Et l'Église dit, il faut pas raisonner en termes de faisabilité, il faut raisonner en termes de possibilité. L'Église dit, tout est possible à celui qui croit. Alors, ça veut dire que, comme on dit, rien n'est impossible à Dieu. Et là où deux ou trois personnes sont réunies, Jésus avait dit, il est là. Vous voyez, il y a une contradiction, je vais dire irréversible. On peut pas les associer, ces deux éléments-là, le faisable et le possible. Non, on ne peut pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on arrive comme ça à une sorte d'impasse entre l'Église et l'État? L'Église va continuer à prêcher le possible, mais celui qui est responsable d'un pays peut pas tellement rentrer dans le possible parce que déjà, lui, il se dit qu'il a des grands équilibres à préserver, ça c'est un. Deux, il se dit, ces gens de l'immigration, par exemple, ils proviennent de pays où les dirigeants sont totalement irresponsables parce que c'est au fond ce que Giorgia Meloni, la présidente italienne, dit aussi, c'est-à-dire, enfin, la présidente première ministre italienne, et dit que la question de l'immigration, par exemple, quand les gens vont en Europe, venant des pays francophones, c'est justement parce que ces pays sont toujours tenus en laisse par l'esprit néocolonial qui anime les relations de la France-Afrique et que bah, cette responsabilité-là, il faut que la France gère cela et la façon de gérer cela, c'est de laisser tomber le système néocolonial et d'encourager ces pays à aller vers plus de responsabilités et probablement plus d'autonomie et probablement plus de développement, comme on voit en ce moment Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, le faire. À ce moment, il est en train de prouver par A plus B qu'on peut accélérer le développement et que cette accélération du développement va jouer en faveur de la réduction de l'immigration parce que les gens n'iront plus chercher ailleurs ce qu'ils vont trouver chez eux. Voilà, donc on est là dans un débat des inconciliables en fait. Mais on verra ce que le pape dira là-dessus, mais le pape, lui, va rester dans la doctrine, hein, il faut accueillir l'étranger. Et M. Vance dira toujours que non, on ne peut pas accueillir tous les étrangers. Comme Michel Rocard disait, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Bon, problème sur l'immigration, problème sur la question très tendue de transgenre, LGBT, qu'il faut-il faire? Bien sûr que là aussi, l'Église elle-même, enfin, la doctrine elle-même parfois, est double, puisque en même temps, c'est pas, elle prévoit que les prêtres ne se marient pas, ça c'est une question terrible. Et de l'autre côté, elle dit qu'il faut se multiplier, et entre les deux, on arrive avec cette histoire distordue de LGBT, où on sait quand même que les prêtres aussi, parce qu'ils n'ont pas l'autorisation de se marier et ont pu tremper dans la pédophilie, bon, c'est avec des enfants de cœur et tout, ou avec tout qui pouvait se rapprocher, parce que c'est des êtres humains. Alors, est-ce que demander encore aux prêtres aujourd'hui d'être célibataires a du sens? Bah, là, l'Église va, si elle suit la doctrine, elle dira oui, à quoi que moi, je n'ai pas vu. Et c'est toujours ça le problème, l'Église ne répond pas à ça. Le verset biblique dit qu'il faut que les prêtres soient célibataires. Je sais pas, Jésus l'a vécu jusqu'à 32 ans, lui connaît pas de femme, mais est-ce que ça suffisait à fonder le célibat des prêtres? Je ne sais pas, c'est compliqué. Et que peut-être que si le prêtre se marie, il va certainement perdre un peu de sa force, mais bah, à l'autre côté, il fait autrement, ou soit homosexuel, on soupçonne beaucoup de choses. Et c'est un problème. C'est un problème parce que, franchement, un être humain, c'est peut-être trop le demander à un être humain, et est-ce que le fait de tuer la chair peut aller jusqu'à la négation sexuelle, qui est quand même aussi une forme de je sais pas, c'est la masculinité aussi. Est-ce qu'un prêtre n'a pas le droit d'être viril? Je sais pas, c'est compliqué. Et c'est une question qu'il faut que l'Église puisse résoudre, parce que du côté, les pasteurs se marient. Bon, est-ce que ça fait qu'ils sont mieux que les prêtres? Pas forcément. Mais il y a une hypocrisie là sur le mariage des prêtres et en même temps, comme dirait le pape François, qui suis-je pour juger? Mais il y a un problème. Il y a un problème. Et on ne peut pas, c'est vrai, lire l'Église ou la critiquer en ayant à ce plaçant du côté où nous sommes, vous voyez la position laïque, où on s'est dit qu'il faut qu'il y ait une tolérance, parce que la laïcité pour la tolérance. La laïcité apporte un peu plus de désordre qu'autre chose, parce qu'en étant pour la tolérance, on finit par tolérer tout, au nom du droit, parce que là, après, il est facile de transformer le message, on va dire le droit des minorités, lequel, on ne voit pas trop, mais bon. Toutes ces questions vont revenir lorsque, avec l'élection du nouveau pape. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une tentation, pas à la Macron, d'aller influencer le vote. Non, non, pas du tout. Mais elle se pose quand même des questions. Est-ce que l'Église va peut-être ouvrir une brèche, notamment sur la question du célibat des prêtres, ou alors. Parce que là, franchement, encore une fois, dans la doctrine, on n'a pas vu où c'est marqué que le prêtre devait être célibataire. Moi, personnellement, à titre personnel, c'est l'aspect qui me trouble un peu parce que je ne sais pas si il faudrait être un surhomme pour devenir prêtre. C'est une grande question, s'il faut être un surhomme pour devenir prêtre. Et est-ce que c'est seulement la prière qui permet d'arriver à ça? Est-ce qu'il n'y a pas de l'hypocrisie? On ne sait pas. Alors, j'ai pensé à un écrivain, Mircea Eliade, qui avait écrit Le sacré et le profane, un historien des religions. Ah ben c'est dommage, moi je suis venu au Cameroun ben, comme une pestiférée, après avoir tout lissé en Europe. Et ici, les livres sont trop chers, donc j'aurais eu le livre pour remettre en tête exactement les idées, mais le titre déjà dit ce que ça veut dire, parce que ça va être ça, la question du conclave. Comment le sacré peut se rapprocher du profane? Ou alors, est-ce que non, 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 c'est pas possible? Et le profane lui-même a quelque chose de très péjoratif, qui est que, vous savez, quand on parle de la profanation des cimetières, c'est un peu comme un saccage. Donc l'Église ne peut pas aller jusqu'au profane, ni même essayer de se rapprocher du profane, c'est pas possible. D'autant que l'Église, dans le sacré, elle est dans la transcendance, elle est dans l'éternité, et que le profane, lui, il est dans le terre à terre, et il serait un peu ou dans la destruction. Dans la destruction, et là, ça, le rapprochement va être très difficile. Mais en étant aussi en restant dans la transcendance, sans se toucher, mettre pied sur terre. On voit par exemple comment l'Église, dans cette transcendance et dans cette ultra-pureté, virginité, s'éloigne aussi de tout ce qui est social. On sait qu'il y a la question de l'avortement pour la mère et l'enfant, la protection de la mère et l'enfant. On sait que beaucoup de familles monoparentales sont pauvres, enfin sont plus pauvres que les familles où il y a un père et tout. Et on sait aussi qu'il y a, côté sociétal, une grande croisade contre la famille elle-même, l'honneur de la famille. Et sur cette croisade-là, on voit pas trop l'Église monter au créneau pour défendre la famille traditionnelle, sachant que c'est la déconstruction de cette famille qui crée beaucoup, 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 beaucoup de désordres et de problèmes par ailleurs, qui rejaillissent donc en boomerang sur l'Église sous forme de tout ce qu'on a dit auparavant. Et au passage, c'est vrai que quelqu'un dira, mais les prêtres, on peut toujours dire qu'ils se marient, mais ça ne résoudra pas l'autre question qui est le problème de l'infidélité, vous voyez? Donc, c'est des problèmes, je ne sais pas comment on va les gérer, mais on verra ce que le prochain pape dira et le message que les prêtres ou les cardinaux auront voulu envoyer pour la suite. Et puis, en faisant attention de ne pas mélanger le mariage, le prêtre, on ne va pas autoriser qu'il se marie parce que, et de l'autre côté, on a autorisé les hommes à se marier, mais ils ne sont jamais satisfaits, ils sont dans l'infidélité. C'est vrai que ça fait réfléchir, ça crée problème, et on ne sait pas où placer la barre. Bien. Après, j'ai deux ou trois choses, quand même, simplement, que je voulais qu'on dire pour les lecteurs, enfin pour les lecteurs, pour l'auditeur et surtout le chrétien, c'est vrai que le message biblique est un message très métaphorique, vous voyez, c'est parabolique. Et quand je pense à des schémas comme il y a une chanson qui dit que, une chanson, je sais pas. Moi, je me suis posé pendant longtemps la question de savoir, mais en quoi moi j'aurais tué le Christ? Non, moi j'ai pas tué le Christ parce que je suis noire, je suis pas blanche et je vois pas. Et puis je suis pas peut-être juive, je vois pas pourquoi moi je viens de payer le crime que les autres ont commis. Là aussi, c'est quand on a une lecture premier degré de la chose. Mais c'est vrai que c'est pas ça. La question, c'est la question de la trahison. Vous voyez? Donc, quand on, c'est pas les acteurs qu'il faut regarder, c'est ce qu'il y a derrière. Et c'est ça la difficulté à faire passer le message biblique. La question de la trahison, et surtout la question de la trahison qui vient du frère, de ceux qui sont à côté. Parce qu'on a tendance à croire que la trahison viendra de loin. C'est faux. La trahison viendra toujours vous surprendre à côté, tout près de vous. Votre frère, on a vu avec Joseph, c'était pareil. Et cette question de la trahison, elle est éternelle. Elle est éternelle, ça fait problème. Vraiment, ça fait problème parce que là, vous dites que l'Église, la doctrine a tout vu. Ça fait problème au point qu'on a quand même vu récemment, on nous dit que Ibrahim Traoré a échappé à un coup d'État parce que justement, les maîtres de la corruption mondiale ont essayé de monter son garde-corps le plus proche pour qu'il le tue lorsqu'il serait en prière, voyez, un peu prosterné devant Allah, quelque chose de sordide. Alors, heureusement, fort heureusement, ça n'a pas été le cas et ce petit jeune a avoué la chose, comment c'était prévu. Je crois qu'il a dit qu'il a combien? 5 millions de dollars et beaucoup de bonnes promesses pour aller vivre dans un très beau pays occidental pendant toute l'éternité, lui et tout le monde qui va venir. Bon, mais la question de la trahison, c'est une question peut-être. Il faudrait que l'Église sensibilise les gens à cela beaucoup de façon plus. Plus approfondie parce que c'est quelque chose qui est récurrent. Et il y a beaucoup de thèmes comme ça que l'Église, dans l'enseignement biblique, qu'on n'a pas Alors, c'est vrai, on va nous dire, ben, c'est ma biblique, allez-y, hein, n'attendez pas qu'on en parle, mais allez-y, venez au Christ, c'est pas le Christ qui viendra à vous. Voilà. Mais ça permet aussi pour les Noirs qui se posent des questions de la place. Alors, ils se demandent, mais Adam et Ève, finalement, on nous dit qu'ils étaient blancs, enfin, c'est l'imagerie qu'on a. Les saints, ils sont tous blancs, les noirs, ils sont jamais nulle part. Ça fait que on y va, on croit, mais en même temps, on s'est dit, ben nous, on n'est jamais représentés, nous, les noirs. Après, on va dire l'élection d'un pape noir, moi, ça, c'est, je rentre pas dedans. C'est comme Obama qu'on voulait mettre, qu'on a mis président en disant qu'on a mis un blanc, un noir président, et finalement, on découvre que non, c'était pas un noir président, c'était une façade de la CIA, vous voyez, donc ça devient compliqué. Mais là aussi, c'est une métaphore qu'on comprenne que la question n'est pas le blanc ou le noir, mais la question est que ben, il y a une humanité qui a commencé quelque part, et que Adam et Ève, dans l'imagerie, c'est blanc, dans l'imaginaire, peut-être aussi c'est blanc. Mais c'est tout le monde, c'est tout le monde. Ça, c'est la force de l'Église catholique et c'est ça qui fait que, au-delà de tout et par-dessus tout, l'Église catholique reste forte, hein, reste très forte. Et moi, je vois ici en Afrique, les églises protestantes sont carrément vidées par les églises réveillées. Alors que l'Église catholique, elle tient. Quand vous allez au culte protestant, maintenant, les temples, il y a du monde. Mais, pas tant que ça, sauf les grands, grands temples, là, un peu à l'américaine, très, très, très lourdement subventionnés par l'État, dans les grandes villes. Mais sinon, partout ailleurs, l'Église protestante se meurt un peu. Hein. Il y a une vraie saignée. Et l'Église catholique résiste très bien. Franchement, je pourrais pas dire pourquoi. Est-ce que c'est parce que systématiquement il y aura le pain, le repas du Christ? Est-ce que je comprends pas, mais il y a un rituel chez les catholiques qui est impressionnant. Il est permanent. Quand KTO passe les émissions, je vais dire ici, le gars catholique, il suit très bien. Avec toutes les répliques, il y a une force de l'Église catholique qui est quand même mystique. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Ça doit être aussi l'organisation de l'Église catholique, parce que l'Église protestante, ça part un peu dans tous les sens. Mais c'est au-delà de ça. Au-delà de ça, c'est vraiment quelque chose d'admirable. Et donc, les catholiques, le pape, voilà, et pendant la succession, il n'a pas à rougir. Hein. L'Église est très critiquée, mais en même temps, elle est très attendue sur beaucoup de sujets où elle a démissionné, sur lesquels elle a démissionné. Et c'est vrai qu'après, lorsque le pape s'avance trop, on lui dit, ah non, mais attention, ça, c'est plus de votre ressort, ça, c'est l'État. Bon, il y a aussi ce jeu qui n'est pas simple. Et quand Macron va, ah non, ça, c'est pas du ressort de la République. Bon, bref. On verra bien, on verra bien. Enfin, on verra bien. Il y a peut-être rien à voir. Il y a juste à suivre la doctrine, la théologie. Mais là, encore une fois, il faudra qu'on nous explique où. Est-ce qu'il est écrit que les prêtres doivent être célibataires? Moi, cette question, elle m'interpelle beaucoup. Alors, sur le plan de la morale, parce qu'on parle de l'Église, hein, et de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon, on a ici en Afrique des choses qui sont intéressantes, notamment au niveau du Burkina Faso, hein, toujours. Hein. Et puis, Assimi Goïta du Mali vient de dissoudre les partis politiques. Ça, c'est fort, parce que pour lui, les partis politiques, là, on rejoint le politique, on ne peut pas y échapper. Il y a les élections bientôt en France aussi, et on se prépare déjà, les candidats se mettent dans les clous. Les partis politiques sont le creuset du chômage, de la pauvreté, de la corruption. Et de, comment on va dire, de l'oppression. C'est ça, le chômage, la pauvreté, la corruption et l'oppression, c'est exactement ce dont l'Afrique souffre en ce moment et qui fait que l'Afrique est vraiment sous-développée. Et les partis politiques tout comme en France, ils sont pour beaucoup parce que ce sont devenus des sortes d'organisations tyranniques et des sortes d'organisations qui s'interposent entre l'État et le citoyen, entre la République et le citoyen, et déforment complètement la République et son esprit. Et là-dessus, le Gabon réagit, le président Nguema, qui a été réélu, assez curieux, hein? Tous ces pays africains qui bougent aujourd'hui sont des pays qui sont dirigés par des militaires. Et on nous disait, oh, ben, les militaires ne peuvent rien faire, mais ce sont eux qui font des choses. Et les civils, ils paraissent décivilisés complètement. Et au Gabon, alors, monsieur Nguema, il fait une. On a vu un extrait comme ça, les réseaux sociaux, où il dit une chose importante. J'écris ici tous les jours, eau et énergie. Il a chargé quelqu'un de mission pour tout ça, pour tous les Gabonais, parce que c'est la source principale du sous-développement en Afrique. Alors, et il en fait une question d'intérêt supérieur de la nation, ce que le FMI, ni la Banque mondiale n'a jamais pu revendiquer, exiger d'ailleurs, que l'eau et l'énergie soient au départ de tout et coulent dans toutes les maisons. Ça n'a jamais été fait et ça n'a jamais été dit. Et là, il a dit clairement, en donnant une feuille de route, je ne sais pas, il a chargé quelqu'un d'une mission, là, de 6 mois, en lui disant, pour un audit, et avec consigne aussi très claire, tous les fonctionnaires qui ont créé des sociétés, qu'elles soient écrans ou concurrents ou parallèles, pour donc attirer les marchés publics des ministères dans lesquels ils travaillent, des départements à eux, tous ces gens vont être virés, et ça c'est formidable, parce que c'est tout ça qui détraque la nation, enfin les pays africains, et c'est ça, la triche, la corruption, les réseaux parallèles qui sucent l'État, qui stressent à moi l'épinière. Bon, il y a des choses qui bougent, hein, en Afrique, je ne sais pas si... l'Église doit venir aider ou pas aider, mais disons que ça va dans le sens où ça va aider, ce décongestionnement va aider à réduire l'immigration. Et si on est sérieux avec la question de l'immigration, et on termine avec ça, ben il faut encourager beaucoup ces chefs d'État qui prennent ces initiatives, notamment là aussi, le président Nguema, il a dit, plus, vous savez, il y a des directeurs de sociétés de quoi, parapublic, qui gagnent des sommes énormes, il a dit, c'est terminé, ils plafonnent les salaires, ils plafonnent les avantages, tout contrevenant à cela sera viré. Donc, il y a une feuille de route qui essaie déjà d'assainir les finances, d'assainir la gouvernance, et des choses préalables que les anciennes colonies devaient exiger si elles étaient sincères, enfin les anciennes colonies, les anciennes métropoles, si elles étaient sincères, des dirigeants partout ailleurs, afin de limiter l'immigration. Il n'y a pas forcément besoin que le pape vienne et intervienne par la norme haute pour dire d'accueillir l'étranger parce qu'il se met du côté des victimes. Il y a aussi la pression qu'on peut avoir, ou plutôt le regard qu'on doit avoir auprès de la responsabilité des dirigeants afin qu'ils fassent des choses. Peut-être que le nouveau pape va peut-être aussi insister dans les deux sens. Parce que c'est vrai, l'Église, elle est pour le pauvre, elle est pour la veuve et l'enfant, et l'étranger, le fragilisé, mais l'Église aussi devrait prendre en compte, si moi je pouvais ajouter, la question du sans-logement, du manque de logement, Abbé Pierre. Et l'Église aussi doit rentrer un peu plus dans ce genre de débat qu'elle a évité jusqu'à présent et qui attend une voix forte comme celle d'un pape pour impulser aussi le changement là-dessus. Bon, alors, à Midi Radio Silence, on ne va pas continuer à dire à l'Église. Enfin, là, on ne dit pas, ce n'est pas une leçon, c'est un appel à l'Église qui a regardé un peu ça. Bon, après, chaque pape fera comme il fera. Le fait de choisir un pape plus qu'un autre, qui serait plus libéral et tout, je crois que c'est un faux débat, dans la mesure où l'Église sait ce qui est bon, ce qui est urgent et ce qui est possible Et bon, en plus, l'Église sait que tout est possible. Donc, on attend de l'Église qu'elle aide à rendre les choses possibles et que tout ce qui est de l'ordre des blocages, de l'impossibilité, puisse devenir des sources, des voies de sociabilité, et puis de ce qui compte beaucoup pour l'Église, la paix. Alors, quand on dit la paix, on va penser à la Palestine, la paix, plus de, enfin, les crimes, la paix, le discours de la paix est fort, mais pas suffisamment entendu. Et peut-être là aussi, depuis que Israël ait fait ce qu'elle fait avec la Palestine, ben, on n'a pas trop entendu l'Église, hein. Eh bien, mon Dieu, que faire, que faire, que faire? Bon, amis de Radio Silence, vous avez écouté Flair sur le monde par Elise Bock et je vous dis à bientôt en attendant le pape.